Alors, bonjour à chacun. Toujours un plaisir de vous voir, de vous revoir. Après, je regarde, ça fait combien d'années que je viens ici, là? Ça ne me rajeunit pas. Ça fait plus que 30 ans. J'étais jeune, hein? J'avais 7-8 ans quand j'ai commencé à venir. Non, c'est pas vrai. Non, de toute façon, j'ai aucune crainte. J'ai pas de, comment dire... C'est pas un problème pour moi de dire mon âge. Je le dirais pas quand même, là. Mais, non. On dit, je crois qu'en tant que croyant, les années qui s'additionnent, eh bien, c'est des années en moins qui nous rapprochent du jour merveilleux où on se retrouvera devant le Seigneur, devant notre Rédempteur, devant celui qui nous a tant aimés. Tant aimés. Et après... Ça fait un peu plus de 50 ans que le Seigneur m'a sauvé, puis me rappeler de lui dans la fraction du pain à chaque premier jour de la semaine, le dimanche, c'est comme quelque chose de toujours nouveau, toujours nouveau. Et que Dieu nous garde de tomber dans une routine face à cela. Hein? Parce qu'on dirait qu'on ouvre un peu, on entrouvre la porte du ciel un petit peu quand on procède à ce mémorial du dimanche matin. Je vous invite à tourner, s'il vous plaît, dans l'épître, deuxième épître à Timothée, au chapitre 4. On va considérer quelques versets, que c'est la fin de cette épître qu'on va regarder. 2 Timothée, chapitre 4, on va lire à compter du verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime, malade, à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudène, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Je vais m'entretenir avec vous ce matin sur un thème tout simple, l'amitié. L'amitié. Et ça nous parle de l'amitié dans ces quelques versets ici. On sait tous, en tant que croyants, que Dieu a créé l'homme comme étant un être social. Dans Genèse 2, 18, le Seigneur éternel dira, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Quoique, non, je retiens ma parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est des êtres, comment dire, pas solitaires, mais grégaires, c'est-à-dire, ça vient du mot « congrégation », on aime se tenir avec les autres, c'est tout à fait normal. Et pour ce faire, bien, il y a le mariage, bien sûr, hein? Et il y a l'amitié. Il y a l'amitié. C'est sûr que, bon, les époux devraient être les meilleurs amis au monde, mais aussi, même si on est marié, il n'y a rien n'empêche d'avoir quelques amis, quelques bons amis. C'est toujours une bonne chose. Et d'ailleurs, depuis toujours... il y a un besoin de communiquer entre nous. Hein? Il y a un besoin de communiquer. Idéalement, je dirais, entre Dieu, hein, se rencontrer en personne, je crois que c'est l'idéal. Bien sûr, il y a les téléphones, textos, courriels, réseaux sociaux, nommez-les, mais rien ne vaut un tête-à-tête, se parler. Voilà. Et dans le passage qui nous occupe ce matin, on trouve des vérités importantes sur l'amitié. C'est intéressant que l'apôtre Pierre en a fait mention dans ce qu'il souhaite pour nous, les chrétiens. Il a dit, je vous lis, ce n'est pas nécessaire que vous y tourniez, mais dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 5, c'est écrit ceci. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Donc, il parle de l'amitié fraternelle. Et quelques mots du contexte de notre passage ce matin. Ici, l'apôtre Paul est à son dernier emprisonnement. Il a été emprisonné une première fois à Césarée pendant 2 ans. Ensuite, il a été emprisonné une première fois à Rome. Mais cette fois-ci, c'est la deuxième fois à Rome. La première fois à Rome, il était comme en résidence surveillée. Il avait de la liberté, il pouvait accueillir des amis. C'était presque pas la prison. Mais cette fois-ci, là, il est dans un cachot froid, humide. La seule ouverture, c'est en haut, au-dessus de sa tête. Il n'est pas placé pour s'évader de là, mais pas du tout. Et il sait, l'apôtre, que c'est la dernière fois. Il est à la fin de sa vie. Il sait qu'il va être exécuté tôt ou tard. L'épître a été écrite en l'année 66 de notre ère. Et comme je viens de dire, c'est peu de temps avant que Paul soit exécuté. Si vous regardez le verset 6 de votre passage, il dit que « Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Il ne dit pas « le moment de ma mort », mais « de mon départ », c'est l'équivalent. Mais pour lui, l'apôtre Paul, ce n'était pas un sujet d'angoisse qu'il puisse mourir. Le mot « départ » ici, dans le grec, nous parle de lever l'ancre puis mettre les voiles. Oh! Le chrétien qui décède, il lève l'ancre puis met les voiles pour s'en aller directement dans la présence de Dieu. Alors, pour l'apôtre Paul, c'est ça que ça représentait, son départ. La foi de cet homme est toujours vivante aussi. Vous pouvez lire avec moi le verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire, de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » En tout cas, ce n'est pas les paroles d'un chrétien qui a le moral entre les deux, le moral à terre, hein? Bien au contraire. Il fait un survol de sa vie, il voit là, il dit, j'ai marché avec le Seigneur, puis je suis toujours avec lui aujourd'hui, et prêt à le rencontrer. Sa foi est toujours vivante. Alors donc, on a ici, tout probablement, les dernières paroles de l'apôtre, qui vont adresser à son fidèle collègue, Timothée. Et les dernières paroles de quelqu'un sont toujours importantes. Hein? Il y a une certaine importance pour ce qu'une personne va dire avant de quitter cette terre. Alors, dans la fin de carrière de Paul, ici, on voit l'amitié, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour les minutes qui nous restent. L'apôtre Paul, ici, nous montre l'amitié sous 3 aspects. Premièrement, les limites humaines de l'amitié. Deuxièmement, le modèle divin de l'amitié. Et finalement, l'exemple de Paul en tant qu'ami. Les limites humaines. Verset 16. Il dit que dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Sa première défense, il parle de sa présence au tribunal. Après son arrestation, Paul a comparu une première fois devant le tribunal romain. Et le système judiciaire romain de cette époque, ça comprenait 2 parutions. Une première, c'était pour établir clairement les accusations qui étaient portées contre lui. Et deuxièmement, la deuxième défense, parution, c'était de déterminer culpabilité ou innocence de la personne. Alors ici, de sa première défense, il y a eu l'occasion, l'apôtre, de faire une première déclaration, défendre sa cause, mais il nous dit qu'il était seul. Pourtant, il y avait beaucoup d'amis chrétiens qu'il connaissait. Personne ne l'a assisté. C'est l'idée ici de se tenir à ses côtés comme un avocat pour témoigner en sa faveur, mais Paul était seul. Et pourtant, il savait bien qu'il y avait des chrétiens, même à Rome, il y en avait, qui le connaissaient. Luc était et un autre chrétien, et Luc n'était pas encore arrivé à Rome, certainement, parce que je suis convaincu que Luc l'aurait fait. Luc aurait assisté l'apôtre devant le tribunal. Et petit contexte, en même temps, je dirais que c'est intéressant de préciser que Néron, c'est lui qui était l'empereur romain à cette époque, il a incendié la ville de Rome en l'année 64 et il a accusé les chrétiens d'avoir fait ça. Alors, vous comprenez que témoigner en faveur de Paul, c'était comme témoigner contre l'empereur. Et il y avait des assassins à la solde de Néron partout dans la ville. Alors, on comprend qu'il n'y a pas tellement de chrétiens qui avaient envie de risquer leur vie auprès de l'apôtre pour témoigner en sa faveur. On peut comprendre. Humainement, là, humainement parlant, ouais, il avait envie de faire autre chose que ça. Mais Paul émet une prière à la fin du verset 16. Il dit que cela ne leur soit point imputé. Il dit, « Tous m'ont abandonné. » Mais vous savez, Paul était très capable de plaider sa cause lui-même. On dit, au bon Québécois, on dit qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Puis il y avait surtout et surtout le Seigneur avec lui pour témoigner, pour plaider sa cause. Mais quand même, il a dû ressentir une solitude cruelle à cette occasion-là. Ça a dû être dur. Mais vous voyez comment les paroles qu'il écrit ici, il n'y a pas d'amertume dans son cœur. Il prie pour ces gens-là que cela ne leur soit point imputé. Il prie pour ses amis infidèles, si je peux dire, qui auraient pu aller l'aider. Alors, ça nous montre aussi que l'amitié humaine, si belle et si fidèle soit-elle, elle a ses limites. Hein? Elle a ses limites. On peut pas espérer la fidélité absolue, même de notre meilleur ami. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Ne pas s'attendre à ce qu'il soit toujours à nos côtés dans les moments difficiles, dans les moments de grands besoins. Et je dois dire aussi, on peut dire soi-même que, comme meilleur ami d'un autre, je risque aussi de le décevoir un jour. Hein? Donc, faut pas avoir des attentes trop élevées. Je pense qu'on est d'accord avec ça. On est des êtres humains faillibles, avec nos faiblesses. Ne pas avoir d'attentes trop élevées. Et l'attitude dans tout ça, c'est de ne pas céder non plus à l'amertume, à la rancune. Prendre l'exemple de l'apôtre ici. Pardonner l'infidélité. Pardonner les limites de l'amitié, comme l'apôtre a fait ici. Et ça nous permet de demeurer en communion avec le Seigneur à ce moment-là. En faisant ça, on va conserver l'amitié intacte. Et savez-vous que ça va être une consolation pour l'autre qui a manqué de fidélité à un moment donné. Et imaginons le bienfait que ça a pu produire lorsque beaucoup de chrétiens qui auraient pu aider Paul et ont lu cette épître après sa mort. Hein? Là, ils se sont dit, « Ouais, j'aurais pu être là, mais il me pardonne. » Il n'est pas parti avec une crotte du cœur, une rancune, pas du tout. Alors, le bienfait que ces amis-là ont pu ressentir quand ils ont lu cette lettre plus tard, après la mort de l'apôtre. Donc, l'amitié humaine a ses limites, je crois qu'on le savait déjà, mais ici, on peut le constater. Deuxièmement, on voit le modèle divin ici de l'amitié maintenant. Les versets 17 et 18, le modèle divin de l'amitié. Alors, si l'amitié humaine a ses limites, eh bien, en tant que chrétien, on a quelqu'un qui, en toutes circonstances, ne nous abandonnera Hey, vous connaissez le mot? Jamais, jamais. Et en ces moments difficiles, ici, l'apôtre a pu jouir de la présence de Dieu, de sa puissance et de sa délivrance, comme on voit dans les versets 17 et 18. Premièrement, il n'y avait pas d'amis humains avec lui, mais il y avait la présence de Dieu. Le verset 17, il dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté. » C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est un peu l'idée comme un avocat ici, présent à ses côtés. Tous l'ont abandonné, mais pas le Seigneur. Et ça me rappelait un cantique. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Je ne chanterai pas, je veux garder mes amis. N'est-ce pas? On peut connaître bien des difficultés, beaucoup de difficultés. Études, travail, famille, difficultés de santé, de finances, difficultés de couple. Mais soyons sûrs d'une chose. Tous ceux qui sont des chrétiens authentiques dans cette salle ici ce matin, on peut être convaincu, puis à la lumière de la parole de Dieu qui nous le confirme, entre autres, Hébreux 13, 5, c'est écrit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hein? » Ces paroles-là avaient été dites d'abord à Josué, qui était encore sans trop d'expérience, il venait de remplacer Moïse, et là, il devait entrer dans le territoire de Canaan pour faire le grand nettoyage, détruire les nations ennemies qui étaient là. Oups, il y avait un défi devant lui, là. Il n'était pas gros, hein? À ce que le Seigneur lui apparaisse puis lui dise, qu'il lui dise, « Sois ferme, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, le Seigneur a assisté l'apôtre Paul. Il était là présent. Mais il a pu jouir aussi de la puissance de Dieu. Dans le même verset 17, il dit, « Il m'a fortifié. » Ça vient du grec ici, dans l'original. Il a comme versé, le Seigneur a comme versé sa force dans l'apôtre. Une infusion de puissance dans la personne de l'apôtre Paul que Dieu a fait pour lui. La présence bienfaisante du Seigneur, ça représente... On ne le réalise pas toujours, hein? Même on ne le réalise pas assez, ça. Mais que Dieu soit présent avec nous et en nous, il y a un potentiel illimité de puissance qui nous accompagne, qui est avec nous. Rappelons-nous, on connaît bien le verset 3, non, pardon, le verset 20 d'Éphésiens, chapitre 3, on n'a pas le temps d'aller voir, mais Éphésiens 3, 20 nous dit, « Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. » Quelque chose comme ça. Et relisez ce verset, méditez là-dessus. On n'est vraiment pas seul quand on a le Seigneur dans notre vie. Puis il y a une puissance avec nous qui nous accompagne. Alors, le résultat de tout ça, c'est que l'apôtre, devant la cour de César, présent au tribunal, et possiblement Néron était là présent, il y avait là des gens qui avaient un pouvoir sur lui de vie ou de mort. Eh bien, il a accompli son mandat, il a prêché l'Évangile. Voyez-vous ce qu'il dit au verset 17? C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié de puissance, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et que tous les païens l'entendent. Il a été en mesure de prêcher l'Évangile à la cour même du tribunal de Néron de César. Il a accompli son mandat. Il lui avait été dit à sa conversion, je note ici dans Acte 9, verset 15, c'est pas nécessaire qu'on y tourne, il y a un frère qui lui a dit, tu vas être un instrument que Dieu t'a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors, voyez-vous, ça s'accomplissait. Il était devant Néron, devant les notables, et il a prêché l'Évangile. Il a entendu le message de la croix. Ça me rappelait une chose quand je méditais ces lignes, c'est que c'était possible d'agir comme chrétien comme témoin de Christ dans ce monde par mes propres forces. On est d'accord avec ça? Par nos propres forces, c'est impossible. Mais le Seigneur, lui, va nous remplir de sa force, de courage, de sagesse, pour qu'on puisse vivre et même souffrir pour lui. Et en méditant ces lignes, ça me rappelait, je sais que d'autres ont beaucoup souffert, encore bien plus que j'ai pu expérimenter, mais je pensais à mon épouse qui est décédée à cause du Parkinson, et j'ai été proche aidant quand même. Les 5 dernières années ont été, en bon québécois, c'était tough. Mais je reconnais aujourd'hui à quel point le Seigneur m'a aidé. Il m'a donné la force, il m'a donné les capacités. Et il n'a peut-être pas dû en parler. Il y a une branche qui se squeeze, là. Mais j'ai reconnu, je me disais après coup, comment j'ai pu faire? Ma femme était devenue, c'était mon épouse, mais c'était un bébé à la fois, il fallait que je fasse tout, tout, tout. Et le Seigneur, il n'y a pas d'autre réponse à ça, il n'y a pas d'autre raison à ça. Le Seigneur a été présent, puis a été puissant pour que ça puisse, que je puisse accomplir et aller demeurer fidèle jusqu'à la fin. Puis de l'aimer jusqu'à la fin. La puissance de Dieu. C'est impossible d'agir comme témoin de Christ dans ce monde par nos propres forces, mais on a un Dieu tout-puissant. Et finalement, l'apôtre Paul revient, il dit, il a pu jouir de la délivrance du Seigneur. De quelle façon? Eh bien, il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion à la fin du verset 17. Qu'est-ce que c'est, la gueule du lion? C'était pas un lion véritable ici, là. Il n'a pas été pitché dans le Colisée pour un spectacle. C'est une métaphore pour nous parler qu'il a échappé à un danger vraiment sérieux. Peut-être qu'il a échappé à la mort pour cette fois-là. Mais il poursuit en disant, mais ça nous parle par la suite, si la gueule du lion nous parle d'une délivrance physique, il y a eu aussi une délivrance spirituelle. Le début du verset 18, il dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera, etc. » Toute œuvre mauvaise. Il était convaincu qu'il serait délivré de toute œuvre mauvaise. Qu'est-ce que c'est? Les commentateurs sont pas mal unanimes pour parler du péché ici. Du péché. Vous savez, pour un chrétien, la chose la plus dangereuse que la souffrance et la mort, c'est quoi selon vous? C'est le péché. C'est de déshonorer le Seigneur. Vous savez, Paul, là, il était placé, écoutez, il y avait une pression, là, devant un tribunal romain, c'est pas rien. Là. C'était l'Empire romain de l'époque, c'était la puissance mondiale. Et il devait témoigner, se tenir debout comme chrétien. La tentation devait être là de renier le Seigneur. C'est un homme, en chair et en os, comme vous et moi. Comment dire? La plus grande crainte de Paul, c'était pas de mourir. C'était, comme je viens de dire, de renier le Seigneur et de déshonorer son nom. Hein? Parce que le premier siècle et même le deuxième siècle du christianisme, il y a eu beaucoup de morts martyrs. Comment il s'appelait, celui qui a connu l'apôtre Jean, j'oublie son nom, il avait un nom bizarre, il est mort sur le bûcher, brûlé, puis jusqu'à la dernière minute, on lui a dit, « Renie, Seigneur, il avait 90 ans passés, il dit, « Regarde, t'es un vieillard, là. Termine ta vie paisiblement. » Il dit non. Il dit, ça fait 60 ans que je sers le Seigneur, il ne m'a jamais fait de mal. Il dit, pourquoi je le renierais là? Alors, l'apôtre Paul, il a terminé ses jours de la même façon. Il n'a pas renié le Seigneur, il a tenu ferme. Et la délivrance, le Seigneur l'a délivré. Alors, voilà. Et c'est ça. Paul avait cette conviction que Dieu le délivrerait de toute œuvre mauvaise. Et c'est l'idée ici que Dieu l'attire à lui loin de tout danger. Loin de tout danger. Et ça me faisait penser à un autre cantique qui dit « Et sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle, tiens-moi caché. » Je ne me rappelle pas le titre du cantique, mais peut-être que vous le connaissez. Non. « Seigneur attire », c'est ça le titre. Non? OK. Encore une fois, je ne chanterai pas. Alors l'apôtre, convaincu d'être préservé et amené en toute sécurité en présence de Dieu, délivré de toute œuvre mauvaise. Le verset 18, je vous le relis. Il dit bien, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Donc, il était tellement convaincu de ça qu'il s'en réjouit à l'avance. Écoutez, il y a une parole de louange à la fin. « À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Il est dans le fond d'un cachot, comme on dit, pas froid, mais fret, hein, humide, et il anticipe déjà la délivrance finale que Dieu va lui accorder. Le Seigneur, pour l'apôtre Paul, il sait bien qu'un jour, il l'a délivré de la pénalité du péché à sa conversion. Il l'a délivré au cours de sa vie de la puissance du péché, et bientôt, il est convaincu qu'il allait le délivrer de la présence du péché parce qu'il allait entrer au ciel. Et il est là en prison. Hein. Il a déjà chanté des cantiques aussi en prison. Vous vous rappelez un peu plus tôt dans le livre des Actes. Eh bien, il est en train de louer Dieu dans le fond de son cachot. Et ça me rappelait que les moments les plus difficiles, souvent, pour nous, les chrétiens, eh bien, c'est souvent ceux-là où on se trouve le plus près de Dieu. Les moments les plus difficiles qu'on peut vivre comme chrétien, ça peut être celui où on se trouve le plus près de Dieu. Et peut-être que je vous rappelle certaines expériences, si vous y pensez comme il faut. Donc, en sens résume, si l'amitié humaine a ses limites, eh bien, le Seigneur a été pour Paul l'ami par excellence. Par excellence. Par sa présence, par sa puissance, puis par sa délivrance. Est-ce qu'il l'est pour vous? Est-ce qu'il l'est pour moi? On va répondre là-dessus silencieusement. Est-ce qu'il est l'ami fidèle et tendre pour chacun de nous? Je le souhaite. Et en dernier point ce matin, ça sera l'exemple de Paul en tant qu'ami. On arrive au verset 19 jusqu'à 22. L'exemple de Paul comme ami. L'apôtre est un homme de Dieu, hein? Ami de Dieu, il vivait une relation intime avec le Père. Et de cette façon-là, il entretenait aussi une bonne relation avec les autres, avec les frères, les sœurs. Puis c'est, ça va de soi. Si ma relation avec Dieu, elle est bonne, elle est saine et sainte, elle est correcte, eh bien, j'aurai une bonne relation avec ceux qui m'entourent. Ça va de soi. Et en même temps, une vie solitaire, je ne crois pas tellement à ça. Personnellement, j'ai besoin de ma dose de solitude à chaque semaine, mais j'ai besoin aussi d'une vie publique. J'ai pas mal d'amis chrétiens que je rencontre, coûte cher de café, mais on a du bon temps ensemble. Je peux dire, et on peut dire, qu'un chrétien ermite, solitaire, isolé, qui se tient à l'écart, c'est une anomalie. C'est pas normal. Si vous reculez d'une page ou deux dans votre épître, au chapitre 2 de 2 Timothée, au verset 22, on lit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, seul. » Non. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, ici, comme Paul, comme ami, il va poser des gestes. Il va faire quatre choses. en terminant, il va saluer, il va informer, il va inviter, il va bénir. Premièrement, il va saluer, verset 19 de notre épître. Excusez, j'ai tourné la mauvaise page. OK. Il dit « Salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. » Alors, cette salutation, Prisca et Aquila, c'est un couple. Un homme et une femme. Paul les a connus 10 ans auparavant à Corinthe, mais lorsqu'il les salue ici dans l'Épître, ce couple-là était à Éphèse, à l'église où se trouvait Timothée. Et ensuite, bon, il ne les oublie pas. Il prend à peine des saluer. Pour Paul, le loin des yeux, ça ne voulait pas dire le loin du cœur. Il pensait encore à ses amis-là. Onésiphore, on n'a pas le temps d'aller voir, mais cet homme-là, Onésiphore, était vraiment un ami chrétien qui a été fidèle à Paul. Donc, il prend peine de le saluer aussi. Et au verset 20, il informe. Il va dire, « Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Éraste est certainement un ancien collègue dans l'œuvre. Et Trophime, qui était aussi un ancien collègue et ami, il est tombé malade, puis il est obligé de le laisser à la ville de Milet, qui n'était pas loin de la ville d'Éphèse, en Asie mineure. Intéressant, ici. Il l'a laissé malade là. Pourquoi il n'a pas imposé les mains pour le guérir? Ah, tiens. Est-ce que les dons miraculeux étaient terminés à cette époque-là? Peut-être. Mais pourtant, Paul, il avait certainement accompli beaucoup de guérisons auparavant, mais non. Son ami, son frère, est malade. Il est obligé de le laisser dans cette ville-là, puis Paul a poursuivi son chemin. Pardon. Alors donc, troisièmement, il va inviter. Il va informer, excusez-moi. Verset 20. Non, il va inviter, excusez. Verset 21, il va inviter, c'est-à-dire, il va dire, « Tâche de venir avant l'hiver, Eubulus, Lupin, Linus et Claudia te saluent. » Alors, verset 21, il va transmettre à Timothée les salutations à plusieurs chrétiens, mais à Timothée, il va faire une invitation pressante. Il va dire, « Tâche de venir avant l'hiver. » Voyez-vous, il veut voir Timothée, possiblement une dernière fois avant de mourir. Et l'amitié de Paul ici envers Timothée ne se dément pas, comme vous pouvez voir. Vous savez, sa situation, il est en prison, seul, dans un cachot. Sa situation ne le plonge pas dans un état psychologique où il ne veut plus voir personne. Vous savez, des fois, quand on est dans un problème sérieux, on s'isole. Très mauvaise idée. Quand ça va mal dans ma vie, faut pas décider de s'isoler, puis là, non, il n'y a plus rien qui compte, plus personne n'existe. C'est pas une bonne idée. C'est sûr, de temps en temps, on a besoin d'être seul, je suis d'accord. Mais on se comprend, je crois. Mais ici, Paul, il n'a pas envie de s'isoler, au contraire, la présence de Timothée lui manque. Il a un grand désir de le voir. Et d'ailleurs, le verset 9 de notre passage au chapitre 4, il dit « Viens au plus tôt vers moi ». Et ici, dans le verset 21, « Tâche de venir avant l'hiver. » Donc, Paul veut le voir une dernière fois, jouir encore une dernière fois de l'amitié fraternelle avant que Paul entre au ciel. Et quand il dit « avant l'hiver », il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il avait besoin, lui, du linge, parce que à Rome, c'est sûr que ce n'est pas un hiver québécois, mais ce n'est pas chaud l'hiver, quand même. C'est très inconfortable. Puis au verset 13, il avait dit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Troas, chez Carpus. » Donc, il a besoin de son manteau, des livres. Puis l'hiver, dans l'Antiquité, l'hiver, la navigation était interrompue pour tout l'hiver. Plus de bateaux qui fonctionnaient. Alors donc, il fallait qu'il se dépêche, là. Parce que s'il manquait le bateau, partir de Éphèse, à pied ou à dos d'âne jusqu'à Rome, il y a peut-être 1400 kilomètres. C'était pas toujours les routes idéales. Hein. Donc, il fallait qu'ils prennent le bateau. Et il ne fallait pas qu'ils tardent parce qu'il peut arriver trop tard. Paul serait décédé. Et finalement, le dernier verset, il va bénir. L'apôtre va bénir. À l'Église d'Éphèse, ici, il adresse une bénédiction générale. Hein, que le Dieu de grâce soit avec vous, vous bénisse. Mais c'est intéressant qu'à Timothée, il y a une bénédiction spécifique. Il dit que le Seigneur soit avec ton esprit. Que le Seigneur soit avec ton esprit. En d'autres mots, que le Seigneur occupe et contrôle tes pensées. Que le Seigneur occupe ta volonté. Que ta volonté soit soumise à la sienne. Vous savez, Paul, c'était le frère de Timothée, frère dans le Seigneur, et ami. Il l'avait exhorté plus qu'une fois à sursaisir dans son ministère, parce qu'il était un jeune homme, puis à l'église d'Éphèse, il y avait des barbes blanches, là, puis des docteurs, puis des faux docteurs, puis il y avait un gros contrat, là. Il y avait un énorme défi à relever pour défendre l'Évangile, défendre la vérité. Alors, vous lirez, on n'a pas le temps, je pense que l'heure... Oui? Pardon? Ouf, merci, je respire. Parce qu'il va dire au verset... au chapitre 1, je vous lis rapidement, chapitre 1, verset 6, à Timothée, il dit, « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don que Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » Paul avait mais Timothée avait besoin de se faire brasser la cage un peu, puis ressaisis-toi. Puis il lui disait, Timothée, tu as tout ce qu'il faut, le Seigneur est avec toi. Toute la puissance est là. Alors donc, c'est pour ça que en dernier, que le Seigneur soit avec ton esprit, quelques mots qui en disent long. Timothée, en d'autres mots, il avait besoin, comme on le disait tantôt, de la présence, de la puissance et de la délivrance du Seigneur. Je vais terminer ce matin avec deux petites leçons, deux réflexions, si vous me permettez. Je reviens sur cette demande de Paul à Timothée. Il lui dit, « Tâche de venir avant l'hiver. » Des fois, j'aime jouer avec les mots, puis... L'hiver, ça nous parle de froid. Hein? Ça nous parle de fraîcheur, souvent de gros frettes. Et c'est un ami qui demande à son autre ami, tâche de venir avant l'hiver. Et ça me rappelait une chose, que les amitiés les plus chaleureuses peuvent parfois se refroidir si on les néglige. Le froid peut s'installer. Si moins on se voit, puis... plus on a des chances que la relation n'est plus la même. Est-ce que, je nous pose la question ce matin, est-ce que quelqu'un de votre connaissance aurait besoin d'un petit coup de téléphone aujourd'hui pour un peu réchauffer de nouveau l'amitié? Un courriel, un texto, encore mieux, une visite? Pourquoi pas? Vous connaissez vos relations et ainsi de suite. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dieu peut, puis je pense particulièrement à un ami chrétien. Là. Dieu peut souvent nous parler par un ami intime. Des fois, un ami peut nous dire des choses que même parfois notre épouse n'oserait peut-être plus nous dire. Ah, ça se peut. Et un ami peut être d'un précieux conseil. Un garde-fou, pour nous empêcher de faire un fou de nous, des folies. Un vrai ami, j'entends, là, qui est capable de nous dire des vérités. Hein, des vrais amis, ça se parle. Et aussi, j'ai mentionné tantôt que les époux devraient être les meilleurs amis au monde. On a eu une conférence sur le couple il y a quelques semaines à Sainte-Foy. Oui, on s'est fait parler d'en face. Ça fait du bien. Les époux devraient être les meilleurs amis au monde. Est-ce que le canal de communication, il commence à avoir du givre qui s'installe l'hiver? Non? Oui? Non? Peut-être. Vous savez. Je ne vous connais pas intimement. Alors, quel est le climat qui règne présentement dans votre vie de couple ou entre d'autres amis? Voilà, tâche de venir avant l'hiver. Hein? Viens réchauffer les relations. Et deuxièmement, en dernier lieu, je dirais ceci. Je reviens sur ma petite phrase, tâche de venir avant l'hiver. Est-ce que le Seigneur pourrait est-ce que le Seigneur sera en train de nous dire ça? Tâche de venir avant l'hiver, est-ce qu'il y aurait raison de nous parler de cette façon-là? Est-ce que ma relation avec le Seigneur est en train de se refroidir? Est-ce que j'ai repris des mauvaises habitudes? Malheureusement, c'est des choses possibles. Et j'ai un petit texte que j'avais trouvé ces jours-ci, que je vous lis rapidement. Ça disait ceci. L'esprit du monde vient en nous et revient ou revient en nous de façon subtile, insidieuse. Un peu négliger la prière, lecture et méditation de la parole négligée, le rassemblement à l'Église, devenir plus permissif en se permettant telle mauvaise pensée, des propos discutables, fréquenter des personnes ou des endroits que j'aurais évité avant, et etc., etc. Et ça peut installer l'hiver dans notre relation avec Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, qu'on puisse juger, abandonner dans notre vie ce qui attriste le Seigneur, ce qui nous éloigne de lui. Et c'est un combat de tous les jours. Oublions pas une chose, le Seigneur Jésus-Christ est venu traiter comme ses amis aussi. Hein? Vous lirez pour vous-même dans Jean chapitre 15 à partir du verset 12, le Seigneur nous dit entre autres dans cet ancien passage, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, dit le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. Ah, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le psaume 25, verset 14, dit ceci, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, ou pour ceux qui lui obéissent. » Une autre traduction dit, « Les communications intimes de l'Éternel est pour ceux qui lui obéissent. » Oh, on entre dans le conseil secret de Dieu. C'est merveilleux, ça. Si on est de ces chrétiens qui lui obéissent vraiment, qui le craignent. Alors, tenons-nous loin, loin de tout ce qui peut refroidir ce lien précieux, cette amitié du Seigneur, de cet ami fidèle et tendre. Les amitiés dans ce monde, aussi belles soient-elles, c'est pour un temps. Les amis dans le monde, c'est pour un temps. L'amitié du Seigneur, ça dure éternellement, comme on a aussi rappelé ce matin. Donc, dans le même cantique qu'elle a mis fidèle et tendre, c'est dit ceci, « Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. » On va prier. Ô notre Dieu et Père, béni sois-tu, oui, de nous avoir sauvés, rachetés un si grand prix. Et nous te bénissons aussi du fait que nous t'appartenons maintenant et tu désires une relation intime avec nous, jour après jour, instant après instant. Et nous nous réjouissons de penser que tu es là pour nous aider, nous soutenir, nous garder, nous accorder, nous pouvons jouir de ta présence, de ta puissance et de ta délivrance, comme on a vu au sujet de l'apôtre Paul ce matin. Et que l'on puisse, oui, entretenir cette relation de plus en plus proche avec toi pour qu'on soit des chrétiens qui marchent avec toi et qui jouissent de la joie de t'appartenir jusqu'au jour béni où tu vas nous amener à toi dans ta présence pour l'éternité. En Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Amen.